On passerait à la présentation des projets pilotes pour vous donner une petite idée de ce qui est mis en œuvre. Et j'ai vu beaucoup de gens prendre des notes. Là, ça, c'est encourageant et intéressant parce que ça veut dire qu'on est justement en train de faire cette activité de sensibilisation et que ben, les idées des uns, les pratiques des uns et des unes peuvent inspirer d'autres organisations. Donc, on va commencer avec l'UQAT, puisque effectivement, on a amorcé le programme, en fait, et les projets pilotes avec celui de l'UQAT. On a donc, ça fait un an là, que vous êtes en route. Alors, si Martine, tu peux nous donner une idée de comment ça s'est passé pour que les autres aient une idée là, de l'expérience vécue.
Merci. Alors, je vous dirais que la bougie d'allumage à l'UQAT, ça a été le programme financier, le programme de soutien financier pour la conciliation famille-études qui a été offert il y a quelques années par le ministère de la Famille, qui n'existe plus malheureusement. Mais pour nous, ça a été notre bougie d'allumage. On a une personne dans les cadres, pour ne pas la nommer, Manon Champagne, vice-rectrice à l'enseignement, la recherche et la création à l'époque, pour qui c'était une priorité, la conciliation travail-famille-études. Elle était auparavant professeure en santé. Elle avait eu beaucoup d'étudiantes surtout en conciliation famille-études, et c'était pour elle un projet très important. Donc déjà, à l'interne, au niveau stratégique, on avait une personne qui croyait beaucoup à ce projet, qui souhaitait que ça se réalise. Donc, on a eu une conseillère à l'équité, diversité et inclusion qui a travaillé à la mise en place de la politique, donc plusieurs consultations à l'interne. Vous l'avez, ceux qui ont des politiques, vous l'avez vécu aussi, là, consulter les syndicats, les chargés de cours, les profs, les étudiants aussi, pour avoir vraiment une vision macro de comment est-ce qu'on va déployer, qu'est-ce qu'on veut avoir dans cette politique-là. Notre politique, ça veut une politique de sensibilisation, d'abord et avant tout, sensibilisation auprès de toute la communauté universitaire. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient de façon informelle. C'est très drôle parce que dans le rapport, vous le nommez qu'il y a justement des mesures informelles. On a commencé par là, des mesures informelles, des professeurs qui recevaient des demandes d'étudiants, d'étudiantes. « Mon enfant était malade, je ne serais pas capable de remettre mon travail à temps. Est-ce qu'on peut s'arranger? » Donc, c'est suite à ce constat-là qu'on a souhaité aller plus loin. Donc, la politique a été adoptée en avril 23, déposée sur le site, et commencer à être parlé au niveau de nos étudiants et étudiantes en octobre 23. Au départ, elle était seulement en français. À l'UQAT, on a un service premier peuple, donc on a une partie de notre population étudiante qui vit sur des communautés autochtones, qui a le privilège de pouvoir faire ses études en anglais. Donc, pour nous, c'était aussi important que la politique soit disponible en anglais, parce que ces personnes-là, vous l'avez bien nommé, il y en a beaucoup qui sont déjà dans une situation où ils ont des enfants, ils ont des personnes à charge. Donc, compte tenu de nos enjeux de ressources que je vous ai parlé tantôt, ça a été beaucoup plus tard, ça a été seulement l'hiver qu'on était en mesure de déployer tout le volet anglais de la communication aux étudiants. Donc, quand je vous disais qu'on a travaillé, on s'est adapté, tout ça, ce qu'on souhaitait faire avec le projet pilote, c'était vraiment avoir la vie. Qu'est-ce que nos étudiants parents, qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux? Qu'est-ce qui est important pour eux? Donc, on a mis sur pied un comité consultatif d'étudiants parents. On a sollicité, on a envoyé un courriel à toute notre population étudiante pour leur demander, est-ce que vous êtes intéressés à faire partie d'un comité où on va entendre votre voix, où on va la prendre en considération? Et compte tenu que nos étudiants-parents sont bien occupés, ont une charge de travail, une charge mentale, tu l'as nommé aussi très importante, on a choisi de leur remettre une bourse d'implication à ces étudiants-là. Ce n'est pas bénévole, ce n'est pas un super salaire, ce n'est pas considéré comme un salaire, c'est vraiment considéré comme une bourse, mais on s'est collé sur la réalité de notre asso étudiante. Les gens qui sont dans l'exécutif de l'asso étudiante reçoivent une bourse d'implication. Donc, on a choisi de leur offrir exactement la même chose que ceux qui font partie de l'asso étudiante. Donc, pour nous, c'était très important pour reconnaître leur travail, leur savoir expérientiel aussi. Et on a aussi fait attention, lorsqu'on a reçu 37 personnes quand même, 37 candidatures. Ça faisait beaucoup de monde, on ne pouvait pas retenir tout le monde. Là, ça aurait fait un très gros comité de travail. Donc, on s'est assuré d'aller chercher une belle représentativité parmi nos populations étudiantes. Aller chercher des gens qui représentent nos différents centres et campus, de la formation à distance, premier cycle supérieur, hommes, femmes, étudiants internationaux, étudiants autochtones. On a réussi à avoir tout ça sur notre comité. Donc, on a 8 personnes qui représente cette belle diversité-là. Donc, lorsqu'on a des échanges, c'est toujours en virtuel. Vous comprenez qu'on ne se rencontre pas en personne, là, parce que j'ai des gens, j'en ai jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tout ce beau monde-là apporte une diversité, apporte leur point de vue. Et ce sont les étudiants-parents qui ont choisi les trois actions qui allaient être mises en place dans le cadre du projet pilote. Le premier étant de développer une communauté d'étudiants-parents. Ils ont besoin de se parler entre eux parce qu'ils se sentent très seuls, ça a été nommé. Ils ont l'impression d'être tout seuls. Ils ont souvent l'impression, ils se font dire, « Ben, je ne veux pas me placer en équipe avec toi, tu n'auras pas beaucoup de disponibilité. » Donc, ils avaient besoin de se parler entre eux. Et on a, en fait, ils ont beaucoup jasé de quelle serait la meilleure plateforme pour qu'on puisse se jaser à travers tout le Québec. C'est Facebook qui a été retenu parce que nos étudiants-parents sont un peu plus âgés. Donc, pour eux, Facebook, ça leur convient encore. Même si on le sait, Facebook s'adresse un peu moins à une population plus jeune. Pour nos étudiants-parents, c'était ça qui leur convenait. Donc, on a mis en place, et là, on s'est questionné, est-ce qu'on veut une page Facebook? Est-ce qu'on veut un groupe Facebook? On a choisi d'aller vers un groupe Facebook parce que c'est une communauté qu'on veut. On veut qu'ils échangent entre eux. Ce n'est pas Lucat qui descend de l'information aux étudiants. On veut qu'ils communiquent entre eux. Donc, c'est un groupe qui est privé. Il faut faire une demande, il y a un petit questionnaire à l'entrée parce qu'il y a certains étudiants qui disent « Moi, mon statut d'étudiant-parent, je ne veux pas que tout le monde y ait accès, justement à cause de la stigmatisation. » Donc, c'est un groupe qui est privé. On peut le trouver sur Facebook, mais ça prend une demande d'accès. Il est tout récent, là. Il a été mis sur pied il y a 3 semaines. Pour essayer les étudiants du comité consultatif qui sont les administrateurs de ce groupe-là. Les services à la communauté étudiante, on a aussi un pied dans le groupe pour assurer la pérennité. Donc, on a un compte Facebook institutionnel qui s'occupe d'assurer la pérennité. Et on veut aussi, les services à la communauté étudiante, de temps en temps, aller glisser de l'information, leur rappeler les ressources qui leur sont offertes. Parce que nos étudiants-parents ont moins de temps pour aller explorer leur intranet, savoir c'est quoi les services qui leur sont disponibles. Même si on sait que les services, ils sont capables de les trouver, là, s'ils font une recherche dans leur intranet, qu'on appelle symbiose. Mais comme on sait qu'ils ont moins de temps, on veut aussi, de temps en temps, aller passer des petites infos, leur rappeler, « Hey, c'est la mi-session, tu te sens surchargé, prends rendez-vous avec un conseiller, une conseillère, ça pourrait peut-être t'aider. » Donc, ça, c'est le premier objectif, le développement d'une communauté. La deuxième chose, c'est un accès gratuit à des activités. Donc, on a parlé de réseautage, de soutien social. On sait que nos étudiants sont surchargés. Souvent, le social, c'est ce qui passe en dernier. Puis là, vous comprenez que dans les choix d'action qu'on pouvait faire, une halte garderie, c'est super difficile à mettre en place parce que comment je déploie 7 haltes garderies dans 7 centres et campus? Comment je déploie… Tout ce que vous parlez, là, les actions que vous faites physiquement, c'est difficile pour nous. Je ne dis pas que c'est irréaliste, mais ça devient très difficile. On a beaucoup d'enjeux. Quand je vous disais que c'est notre principale difficulté, il faut toujours qu'on le garde en tête. Puis quand on parlait avec nos étudiants-parents du comité consultatif, bien, ils sont conscients de ces enjeux-là parce qu'ils les vivent à tous les jours. J'ai des étudiantes qui sont à Mont-Laurier qui n'ont pas la même réalité qu'à Rouyn. Donc, si j'organise une activité à Rouyn, bien, ils vont dire « c'est pas juste, moi, j'en ai pas ». Puis, il y avait aussi le gros enjeu de, on ne voulait pas non plus leur remettre la responsabilité d'organiser des choses alors qu'ils sont déjà surchargés. Donc, si on leur dit, c'est par et pour les étudiants, bravo, on organise une sortie cabane à sucre, qui va l'organiser? Est-ce que ce sont les étudiants-parents? Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, puis vous l'avez bien nommé dans votre rapport aussi que la participation aux activités, c'est un enjeu parce qu'ils sont déjà surchargés. Donc, dans toute cette optique-là, ce qu'on a choisi de faire, c'est de plutôt, le soutien social, on va leur donner aux étudiants-parents via leurs proches. Souvent, les étudiants-parents, ils ont des gens, souvent, pas toujours, mais souvent, ils ont dans leur entourage un papa, une maman, une tante, un voisin, une voisine qui va les soutenir, qui va garder les enfants de temps en temps. Donc, on a choisi de leur offrir des certificats cadeaux, des accès gratuits à des activités pour qu'ils passent du temps positif en famille. On n'a pas le stress des études. Puis, l'accès, ce qu'on leur offre comme certificat cadeau, ça leur permet d'inviter quelqu'un de l'extérieur aussi pour reconnaître ce support-là qui est fait par l'entourage. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va déployer dans les prochaines semaines. Et c'est un concours qu'on veut mettre en place, mais sincèrement, le budget qu'on a va permettre à pratiquement tous nos étudiants-parents d'avoir accès à un certificat cadeau. On a ciblé, en ce moment, comme on est partout au Québec, qu'est-ce qu'on cible comme activité? C'est pas facile. Donc, avec le comité consultatif, on s'est entendu réseau de la CEPAC. Donc, on est dans le sport, on est dans le loisir. Donc, tous les réseaux de la CEPAC, on a choisi différents restaurants aussi qu'on sait qu'il y a à peu près partout au Québec qui accueillent des enfants. Et on a choisi aussi de se tourner vers le réseau des salles de spectacle et de cinéma. Donc, c'est ce qu'on a choisi pour une première édition. Et ben c'est ça. Le seul critère pour que nos étudiants puissent participer à ce concours-là, c'est d'avoir leur statut d'étudiant parent. Nous, en même temps, ça nous permet d'aller documenter. On en a combien des étudiants parents? En ce moment, on ne le sait pas parce que quand ils font leur demande d'admission, on ne leur demande pas du tout s'ils sont étudiants parents. On n'a pas de modalité de sondage. Je sais qu'il y a des recensements qui se font là. Vous nommiez que chez vous, il y avait des recensements. Nous, on n'a pas ça en ce moment. Fait qu'on n'a aucune idée. On se doute qu'on a, sur 7000 étudiants, on se doute qu'on en a peut-être 2000, 3000, mais on ne le sait pas. Puis ça devient difficile de convaincre les professeurs, les départements de mettre en place des actions parce qu'ils ne savent pas pour combien d'étudiants ils travaillent. Donc, nous, vous comprenez qu'on a vraiment un double... on a une petite carte, un petit poker là ici qu'on se dit, oui, nos étudiants parents, on va venir les soutenir, mais en même temps, nous, on vient documenter notre réalité. Et la troisième action qu'on a choisi de mettre en place, je vais terminer avec ça, c'est de faire de la promotion pour la politique pour nos étudiants parents. En fait, on l'appelle la politique de conciliation famille-études, qui tient compte aussi, qui englobe un peu plus la réalité de proche aidance aussi, qu'on a tendance à oublier. On a fait des kiosques durant les activités de la rentrée. Donc, on a ciblé les centres et campus où on sait qu'il y a plus d'étudiants parents. Donc, et ce sont des étudiants parents du comité consultatif qui ont tenu ces kiosques-là. L'avantage, c'est que nos étudiants-parents sont super occupés. Donc, lorsqu'on leur dit « va chercher ton statut, ça vaut la peine », ils disent « qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me donne de prendre une demi-heure de mon temps pour faire une démarche administrative? » Donc, le fait que c'était des étudiants-parents qui pouvaient leur expliquer c'est quoi les avantages, qu'est-ce que ça donne, ça a été payant. On est allé chercher, pour vrai, là, dans les derniers mois, on commence tranquillement, on est au balbutiement, on avait peut-être 50, 60 étudiants-parents. Et avec les kiosques de rentrée qu'on a fait, on est allé chercher 30 % de plus d'étudiants par an. Avec 4 kiosques dans des centres et campus, un après-midi, on a fait, donc ça a valu la peine. Et chaque fois qu'on fait des démarches, on documente justement. On va demander à notre système, on est rendu à combien d'étudiants par an. Et ça nous permet après ça de voir qu'est-ce qui vaut la peine de faire comme action, qu'est-ce qu'on devrait refaire année après année, puis qu'est-ce que, oh ça finalement, ça ne valait pas tant la peine. Donc, on vient toujours monitorer. Chaque action, à chaque mois, on questionne le système, on est rendu à combien d'étudiants par an. Donc, ça nous permet d'avoir des données bien précises là, sur les impacts de nos actions.
Cindy, je pense que tu avais un commentaire, puis ensuite, on va passer à Sainte-Foy sur vos projets.
Bien, ça fonctionne, oui, OK.
Oui.
Bien, justement, la clé, c'est d'aller chercher ces données-là, je pense. Parce que nous aussi, à l'Université Laval, je veux dire, comme je l'ai dit tantôt, on a un bassin de 50 000 étudiants. Sur ce bassin-là, on présume qu'on touche peut-être 25 % qui peuvent être des étudiants par an. Ça comprend aussi les candidats adultes là, qui font des retours aux études. Là. Mais comment est-ce qu'on fait pour les rejoindre? Parce que les données, je ne les ai pas. Ce n'est pas un statut qui sont obligés de déclarer. Non seulement c'est un statut qu'ils ne sont pas obligés de déclarer, mais c'est comment aussi que nous, on peut intégrer cette déclaration-là dans nos systèmes pour que ça respecte aussi toutes les lois encadrant les fameuses données personnelles et tout qui ont été revues dans les dernières années. Donc, là, on va essayer. L'idée prochaine, ça serait justement d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans nos systèmes pour qu'on puisse avoir des données. Parce qu'on a beau faire des sondages, on a beau faire quoi que ce soit, je veux dire, le sondage il est toujours volontaire pour la part d'étudiants. Puis nous baser seulement sur les attestations qu'on remet aux étudiants, déjà, ça nous donne une bonne idée de qui l'étudiant qui fait la demande pour obtenir son attestation d'étudiant par an. Par contre, ça ne reflète pas la réalité. Parce que l'étudiant qui va demander son attestation, c'est parce que cet étudiant ou cette étudiante-là juge qu'il va y avoir peut-être avoir besoin des accommodements dans la session, dans l'année en cours. La personne qui est parent et qui n'a pas besoin de d'accommodement, qui n'a pas besoin qui s'arrange parce que ça fonctionne bien, parce qu'elle a un bon réseau et tout, ça ne veut pas dire qu'elle, par contre, elle ne veut pas participer, elle ne veut pas avoir un réseau avec les autres parents. Mais comment je fais pour la rejoindre, cette personne-là? Je n'ai pas ces données.
C'est ça.
Puis, on a une association étudiante qui est extrêmement active sur le campus, puis on collabore beaucoup avec eux, mais encore ça, ce n'est pas tout le monde qui veut faire partie d'une association étudiante nécessairement non plus. Donc, ça reste un beau défi.
Mm. Donc, sur Sainte-Foy?
Oui, mais en fait, je vais faire un lien au niveau de l'identification. Nous, comment on procède, c'est que tous les étudiants, quand ils rouvrent leur portail Omnivox pour la première fois, il y a deux pop-up qui se fait. Es-tu un parent aux études? Es-tu un étudiant de communauté autochtone? À ce moment-là, si ça ne vous concerne pas, on laisse passer, le pop-up ne réapparaît plus. Toutefois, les parents aux études, ils sont intrigués, ils vont voir, ils vont remplir un formulaire, puis moi, je reçois ces formulaires-là. Et ensuite, ben, ils doivent fournir une pièce justificative qui, là, après ça, on leur donne leur statut de parent, statut qui est intégré dans Clara, puis donc tous les intervenants voient que les étudiants sont parents. Mais pour le projet pilote, justement, c'est qu'il y a deux volets. Le premier, ce serait de mieux identifier toutes les données socio-économiques sur ces parents aux études-là, parce que j'ai pas beaucoup de choses, sinon le nom des enfants, leur âge. Bon, mais je sais pas si c'est des mères monoparentales, par exemple. Je sais pas si sont nouvellement arrivés au Québec, si c'est des nouveaux arrivants. Fait que le premier volet, ce serait vraiment de mieux documenter, d'avoir des meilleures bases de données pour prendre plus d'informations sur nos clientèles. Puis ensuite, le but, c'est de bonifier les services pour les mères qui sont immigrantes et les mères monoparentales. Donc, tous les services que je vous ai nommés tantôt, pour ces personnes-là qui vivent comme une double vulnérabilité, on va bonifier les services. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet... En fait, moi, je me suis fiée beaucoup au cadre de référence en santé mentale pour voir est-ce qu'on coche pas mal partout ou est-ce qu'on manque un peu. Puis nous, au niveau des services de garde, c'est vraiment difficile. Fait qu'on a décidé de partir une banque de gardiens-gardiennes. Ça se fait au cégep de Limoilou. J'ai bien hâte de les rencontrer. Et dans le fond, c'est sur une plateforme. Les gardiens-gardiennes, ça va être des étudiants et étudiantes de techniques d'éducation spécialisées, des techniques d'éducation à l'enfance. Et les parents vont pouvoir accéder à la plateforme, faire une demande de gardien-gardienne, puis ça, il va y avoir un jumelage qui va être fait, puis ils vont pouvoir avoir un service de garde comme ça. Super intéressant, je parlais de ça à une maman aux études que j'accompagne, qui est en intégration multimédia. Et puis, elle a entendu parler du concours Ose entreprendre. Puis, elle dit, j'aimerais ça, déposer quelque chose. J'ai dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire une plateforme. Fait que, se sont ramassés un groupe d'étudiants dans le programme. Puis c'est eux qui avaient soutenu avec des professeurs, la direction de l'informatique et tout ça, mais qui vont monter la plateforme comme un projet. Puis ce projet-là, ben, ils vont le présenter au concours aux entreprises. Fait que tout le monde est heureux. Tout le monde est gagnant.
C'est bien que les étudiants soient intégrés activement, c'est ça, aux solutions. Bon, on a évoqué donc les projets pilotes. Il y a évidemment plein d'autres choses qui ont été évoquées qui s'inscrivent dans la même perspective.